Deutsche Welle, Économie et Développement.
La sécurité sur Internet, mais aussi dans vos assiettes. Dans ce numéro, vous allez entendre des journalistes qui veulent pouvoir naviguer de manière plus sûre sur le web. Il sera donc question de cybersécurité. Et puis la seconde partie de ce magazine sera consacrée à la sécurité alimentaire. Vous allez faire la connaissance d'Alem Grayling. Cette Éthiopienne se bat pour que les enfants de son pays mangent premièrement à leur faim, mais deuxièmement aussi une nourriture de qualité. C'est Claire-Marie Kostmann au micro. Bienvenue. Souriez, vous êtes suivi sur Internet. Le numérique a facilité la vie de beaucoup d'internautes, mais laisser des traces sur le web peut s'avérer gênant pour tous les citoyens et même dangereux pour les journalistes et les militants qui cherchent à travailler sur des sujets sensibles. Les données sont devenues des enjeux politiques et économiques, surveillées par des États ou des entreprises, voire volées par des malfaiteurs qui cherchent à s'emparer de votre identité ou à piller votre compte bancaire. Alors comment se protéger dans un monde de plus en plus numérisé? Un maître mot, la prudence. Écoutez le reportage de notre correspondant à Dakar, Mamadou Lamineba.
L'avènement du numérique a apporté des changements dans le quotidien des humains. La révolution digitale a ainsi révolutionné certaines professions. Nous sommes connectés pour travailler, nous exposons donc nos identités en ligne. Pape Ismaël Adjien est blogueur. Pour lui, le web, c'est le domicile numérisé.
Ce que nous faisons en ligne, c'est comme notre maison en fait. On y garde des choses privées, des choses importantes, des choses qui concernent notre travail ou notre famille. Rien que votre simple adresse email est une donnée. Lorsque vous créez un compte Facebook, vous donnez à Facebook votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse email. Vous lui avez fourni au moins 4 données.
Entreprises, multinationales et États, les traces que nous laissons en ligne intéressent tout le monde. Pape Ismaël Adjien explique.
Les données aujourd'hui, globalement, valent énormément d'argent. C'est ce qu'on appelle le big data. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde de la publicité a besoin de ces données. L'espionnage industriel, il y a l'espionnage entre États. Toutes ces données-là sont d'une importance capitale.
Ces masses de données sont des sources de revenus pour certains. Elles sont aussi des menaces pour d'autres. Le risque de vol de données est donc réel. Cherfal est le président de la Ligue africaine des cyberactivistes.
Les risques de piratage et de surveillance, c'est d'abord sur le fait que l'information qui est produite a un impact plus ou moins positif ou négatif, ça dépend maintenant des positions. C'est que les gouvernements ont tendance souvent à réduire au silence certaines personnes qui ont des choses à dire. On a aussi compris que les réseaux sociaux sont devenus en quelque sorte des menaces.
Ces menaces sont prises au sérieux par les États. Certains activistes ont d'autres raisons de protéger leurs données. Syriac Bogbou est blogueur ivoirien.
Il est souvent exposé à certaines dénonciations qui ne vont pas peut-être dans la ligne du gouvernement ou bien qui ne vont pas dans la ligne de tout un chacun. Ou bien même ça peut être une grande entreprise, il dénonce par exemple des choses dans les mines parce que ce sont des gros sous qui sont en jeu.
Les journalistes font aussi l'objet de cibles. Ismaïla Camara, journaliste blogueur sénégalais, avance ses raisons.
Nous travaillons souvent avec des informations très sensibles, raison pour laquelle je pense que le journaliste doit davantage être prudent. Quelqu'un même dans votre environnement peut toucher à vos données.
Dans certains pays, Internet et les réseaux sociaux sont considérés comme des armes de manifestation et de contestation citoyenne. En Afrique, des États censurent ou surveillent des usagers de ces outils informatiques. Cherfal nous cite quelques exemples.
La Gambie, qui est juste à côté, a subi pas mal d'attaques dans ce sens-là, avec la censure appliquée sur certains médias, Internet, même le réseau GSM. Le Togo, en ce moment, est en train de subir cette censure. Au Sénégal, nous l'avons subi, mais certains ne s'en rendent pas compte.
Récemment, une fuite de données a créé un scandale en Côte d'Ivoire. Syriac Bobou revient sur ce qui s'est passé.
Il y a eu une histoire de tout ce qui est agro-business il n'y a pas assez longtemps en Côte d'Ivoire. Des personnes sont allées souscrire sans que même peut-être leurs parents ne soient informés. Mieux, des maris ou bien des femmes sont allées souscrire sans que peut-être leur époux ou bien leur épouse soit informée. Et voilà qu'un scandale arrive et qu'on dit qu'on arrête tout. Donc tout ce qui est RSI, retour sur investissement et autres, on ne veut plus. Ça crée vraiment un gros boom social.
La sécurité des données est devenue un enjeu économique. Asmaou Yassine Diallo est guinéenne. Elle porte un projet, mais elle est venue se former à Dakar avant de se lancer.
J'ai un projet de création d'un complexe touristique. Et dans ce cadre, je suis la formation en cybersécurité parce que je sais que actuellement, je n'ai pas été victime, mais je suis une cible possible.
Journaliste, activiste et blogueur sont sujets d'attaques informatiques malveillantes. Comment alors se protéger contre les cyberattaques ? Cherfal nous liste les solutions existantes.
Nous avons des outils pour brouiller les pistes, pour essayer de tromper la vigilance quand on est sous surveillance. Nous avons des outils pour chiffrer nos communications électroniques. Nous avons des outils pour chiffrer nos SMS. Nous avons même des outils pour chiffrer en quelque sorte notre communication audio quand on appelle sur le réseau local. Et voilà, on a aussi des outils pour rester en contact.
Pour les journalistes, Ismaël Camara propose des solutions internes.
Je pense que nos médias doivent pouvoir avoir leur propre compte. C'est-à-dire, si vous êtes journaliste à RFM, il faut avoir le @RFM. Quand vous êtes à la Deutsche Welle, d'avoir un truc @Deutsche Welle. Ça va vous protéger parce que vous allez parler directement avec votre responsable de système informatique.
Toutes les plateformes de messagerie offrent des options sécuritaires, mais pour Pape Ismaël Adjien, une d'entre elles sort du lot.
Bon, aujourd'hui, si on veut être honnête, Gmail quand même a atteint un niveau de sécurité qui est un peu au-dessus des autres.
Aujourd'hui, un simple mot de passe ne suffit plus pour garantir notre sécurité en ligne. Les États surveillent et censurent les blogueurs au quotidien. Les entreprises sont à la trousse d'autres entreprises. À chaque usager de définir sa propre politique de sécurité dans le cybermonde. Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Et voici quelques conseils pour aller sur le web avec davantage de sécurité. Utiliser des logiciels libres, utiliser aussi le réseau Tor qui permet de crypter les connexions. C'est ce que font de nombreux dissidents dans des pays où Internet est très surveillé. Vous devez aussi éviter, si possible, les services qui vous demandent vos coordonnées bancaires et vous épargner l'usage du cloud qui stocke les données en continu. Par conséquent, elles ne vous appartiennent plus vraiment. Le mois dernier, l'Éthiopie a conclu un accord de prêt à hauteur $1 milliard avec la Banque mondiale pour financer des politiques favorables aux pauvres, en particulier dans les régions les plus touchées par la sécheresse et les pénuries alimentaires. En août, la FAO a alerté sur le fait que 8 millions de personnes souffraient de la faim dans le pays, surtout dans l'est du pays. Il fait face au phénomène climatique El Niño survenu lors des précédentes saisons. L'Éthiopie devrait toutefois afficher un taux de croissance de 11% cette année. C'est le premier producteur de miel sur le continent africain, mais aussi un grand producteur de café. L'agriculture représente toujours un tiers du PIB d'Addis Abeba. Alem Grinding veut elle aussi alerter sur le fait que de nombreux enfants souffrent de malnutrition en Éthiopie. Cette nutritionniste, qui a notamment vécu en Allemagne, a créé NutriDance, un mélange de céréales qu'elle souhaite commercialiser. Comment en est-elle arrivée là ? Écoutez. Lorsque j'ai fini mes études à l'université, j'avais l'idée de produire de la nourriture pour les enfants. Car j'ai élevé mes enfants en Allemagne et là-bas, je n'avais aucun problème pour les nourrir. Il y avait des choses toutes prêtes. Ils ont reçu tout ce dont ils avaient besoin. Lorsque je suis rentrée à Addis Abeba, il y avait une vraie urgence, car des enfants souffraient de la faim et de malnutrition. J'ai répondu à une annonce dans un journal et j'ai commencé à travailler pour aider les enfants en tant que nutritionniste. Durant cette période, j'ai vu comment les habitants faisaient pousser leurs légumes avec des pesticides qui ne sont pas bons pour la santé des enfants. C'est pourquoi j'ai décidé de me tourner vers les céréales. Et pas n'importe quelle céréale, des espèces qui peuvent être cultivées localement pour ne pas dépendre d'importation et mieux contrôler la qualité. Les gens ne consomment pas de nourriture avec une bonne qualité nutritionnelle. Nous avons des céréales qui poussent chez nous, mais les habitants ne les consomment pas de la bonne manière, en préservant les vitamines, les minéraux ou les nutriments nécessaires pour leur corps. Alem Grayling a mis au point des recettes de barres de céréales à base de teff, de moringa, de sésame et de miel, mais aussi à des mélanges pour petit déjeuner. L'idée est d'offrir aux parents, mais aussi aux écoles, une solution toute prête contre la malnutrition des enfants. Pour l'instant, elle travaille dans sa cuisine, mais espère lancer une production à grande échelle, sauf qu'elle se retrouve seule.
No help from the government. In fact, they don't know, maybe...
Aucune aide du gouvernement. En fait, j'ai fait mon plan de développement d'activité et quand je leur ai montré, ils ont dit « C'est bien, bravo, mais ils ne m'aident pas. J'ai dû lutter pour acheter une bande de terre pour les plantes, mais il me faut des financements. Je me bagarre avec les banques. Dès que j'aurai une réponse, je pourrai le faire. Mais le problème, c'est vraiment le soutien financier. » Et si vous voulez en savoir plus sur le projet d'Alem Grayling, n'hésitez pas à aller sur le site internet consacré à NutriDance. Elle a aussi mené une campagne de financement participatif pour l'aider à récolter 40 000 dollars, la somme qui lui permettrait de lancer son affaire. Et vous pouvez aller sur notre site www.com/français/médiathèque pour retrouver le podcast. Merci pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.